Europe 1,
11h midi, et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait tous les jours sur Europe 1, un très grand voyage, et aujourd'hui un très très grand voyage. Pour beaucoup, c'est le voyage d'une vie. Je vous emmène dans un pays grand comme un continent, un pays de 1 milliard 330 millions d'habitants, où la spiritualité se glisse partout, dans tous les interstices, où la tradition extrêmement présente est parfois un petit peu difficile à comprendre pour nous, parfois même un peu mystérieuse. Un pays où vous avez des quartiers avec des buildings étincelants et puis tout à coup vous passez dans un bidonville assez sombre et puis dans les campagnes vous avez des villages de huttes. C'est un pays foisonnant. Je vous emmène maintenant en Inde. Et pour m'accompagner dans ce voyage, de délicieux compagnons de voyage, Nathalie Corré, qui est notre Shiva, notre déesse hindoue, vêtue d'un sari aujourd'hui.
Oui, namasté. Oh, bah j'ai la voix toute éraillée, dis donc.
C'est ça, j'ai trop
chanté. Namasté, donc les mains en Namaskar Mudra, les paumes jointes l'une contre l'autre, les pouces en contact avec le plexus solaire, la tête s'incline en signe de gratitude. Namasté Philippe.
Ah bah dis donc, vous avez bossé votre dossier. Hein.
Je connais l'Inde, j'aime.
Vous y êtes allé ?
Bien sûr, 7 fois.
Bon, vous nous raconterez
ça. Dans quel état je suis revenu ?
ça vous transforme. Hein.
Ça vous change un homme.
Didier Ferrat du guide de Lonely Planet, bonjour.
Bonjour Philippe.
Pour vous, l'Inde, c'est toujours difficile en quelques mots l'Inde. Hein.
C'est très compliqué parce que l'Inde, c'est 29 états et 7 territoires qui forment un véritable continent. C'est 22 langues officielles. Ouais. Ce sont les montagnes de l'Himalaya, les cultures de thé à perte de vue, des plages de rêve aussi. Des monuments islamiques au nord, des milliers de temples hindouistes au sud, des odeurs d'épices et d'encens, un fleuve sacré, une spiritualité hors norme et surtout la sensation vertigineuse d'entrer dans un autre monde. Bref, pour moi, c'est plus qu'un pays, c'est une civilisation.
Voilà, non, mais c'est ça, c'est un autre monde, c'est une civilisation. Et dans quelques instants, avec nous aussi Nicolas Hidier, qui est auteur, il a vécu 4 ans en Inde et ce pays continue de le fasciner. Attention, nous allons plonger maintenant dans cet autre monde profondément différent. C'est parti.
Et si on partait voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
Une des scènes les plus troublantes à laquelle j'ai assisté en Inde, c'était au bord du Gange à Varanasi. Pour les hindous, le Gange est un dieu. Et venir mourir ici à Varanasi, au bord du fleuve, c'est un moyen d'être délivré, de faire cesser le cycle des réincarnations et d'accéder à une forme de vie éternelle. Toute la journée, jusque tard dans la nuit, sur le bord du fleuve, il y a des flammes, une fumée blanche qui s'élève, d'immenses bûchers. C'est là que sont incinérés les corps. Ici se déroulent les rites les plus intimes de la vie et de la mort. Les cendres et les restes des défunts rejoignent les flots du Gange. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est de découvrir que les vivants viennent aussi laver leurs péchés dans le Gange. Les croyants par centaines viennent et s'immergent, se lavent dans le fleuve. On vient en famille avec les enfants et c'est même assez joyeux. Et ce jour-là, j'étais au bord du fleuve et j'essaie de m'approcher d'un de ces pèlerins qui, lui, est dans l'eau avec sa famille, avec de l'eau jusqu'à la taille, et tous s'ébrouent plutôt gaiement. Et je lui demande si ça ne le trouble pas de se baigner directement dans ce fleuve qui reçoit les cendres, les restes de tous les défunts. Et il me dit « Non, non, pas de problème, au contraire. Ganga est là pour nous protéger. » Ganga, c'est le dieu Gange. Plus étonnant encore, je le vois boire de l'eau du fleuve et même inviter ses enfants à le faire. Là encore, je ne peux pas m'empêcher, il y a autour de nous des dizaines de familles dans l'eau. Et donc je lui demande s'il n'a pas peur d'être malade. Et il me répond « Non, non !» Non, pas du tout. On vient souvent ici boire de l'eau sacrée. C'est une chance de pouvoir le faire. et je le vois remplir des bouteilles. Des bouteilles en plastique qu'il avait amenées avec lui. Des bouteilles qu'il va ramener à la maison pour avoir de l'eau sacrée à disposition. Le Gange, à Varanasi, c'est un lieu incroyable, un lieu où le monde physique semble rejoindre le monde spirituel. De Varanasi, on ne revient pas tout à fait le même.
Europe 1, 11h midi, et si on partait ? Philippe Googler.
Dans un tout petit instant, nous plongerons encore plus profondément, non pas dans le Gange, mais dans cette Inde parfois un peu mystérieuse pour nous, très mystérieuse, sur Europe 1.
Europe 1, 11h midi, et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait, nous sommes aujourd'hui en Inde, un pays dont on ne revient pas tout à fait comme avant. Aujourd'hui, nous sommes en studio avec Nicolas Hidier. Nicolas, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous avez vécu plusieurs années en Inde, dans ce pays si marquant, si puissant en émotion, en énergie. Vous aimez le raconter dans vos livres, comme en 2019 avec une boîte de nuit à Calcutta, que vous avez coécrit avec Mackenzie Horsell. La première chose moi, que je dirais de l'Inde, pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est que ce n'est pas un monolithe, ce n'est pas un bloc, c'est extrêmement divers. Puisque ça va de l'Himalaya au nord jusqu'aux plages de Goa et du Kerala au sud. Comment vous le décririez, vous, en quelques mots, ce pays ?
C'est un pays immense. En tout cas, moi, c'est un pays qui m'a fait tourner la tête.
Ouais.
On y arrive. Alors, en effet, je pense que c'est un des voyages les plus importants qu'on peut faire dans une vie.
Vraiment ?
Vraiment. Et pourtant, j'ai vu un certain nombre de pays, ouais, notamment en Asie. Mais c'est vrai qu'en Inde, peut-être grâce à sa diversité, grâce aussi à l'intensité de toute chose, il n'y a rien qui est fade en Inde.
Ouais.
C'est-à-dire que vous n'êtes jamais en repos. La page n'est jamais blanche. Vous êtes toujours entouré de couleurs, entouré de bruits. J'ai beaucoup aimé dans votre reportage, il y a cette musique permanente. Alors parfois, c'est le klaxon des voitures, ce n'est pas toujours la sitar. Mais il y a toujours un environnement qui vous prend et qui vous emporte. Et c'est vrai que le Gange, c'est probablement le meilleur symbole de l'Inde, puisque ce fleuve immense qui charrie avec lui toute une histoire, vous emporte avec lui.
Oui, il vous emporte au-delà de la vie.
Et il vous emporte même au-delà de la vie.
Ouais, ouais, ouais. Et vous avez raison, il y a un foisonnement incessant qui peut être pour nous un peu troublant, un peu fatigant, un peu épuisant. C'est un pays qui n'arrête pas de vibrer autour de vous.
Ah, c'est un pays, c'est comme un torrent d'eau qui vous tombe dessus.
Ouais.
C'est un pays qui vous lave, qui vous rince, dans lequel vous pouvez peut-être vous noyer. En tout cas, c'est déjà arrivé,
ouais,
pour certains.
Ouais.
Donc c'est un pays où il faut apprendre à nager, mais il ne faut pas résister à l'Inde. Il faut se laisser emporter par le courant. Il faut essayer d'en profiter le maximum.
Ouais.
Parfois, on sait qu'on va boire la tasse. Parfois, on sait qu'on sera totalement impuissant face à cette force extraordinaire de ce pays.
Ouais.
Mais il faut se laisser porter, il faut se laisser emporter.
Ouais. Alors, je trouve que vous le racontez très, très bien. Et en même temps, on a besoin de choses concrètes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire se laisser emporter par l'Inde quand on est dans une ville comme Bombay ou comme Delhi ?
Première chose, il faut être patient. Il ne faut jamais vouloir trop de choses trop vite. Par exemple, quand vous êtes emprisonné, je crois que le mot est vraiment celui-là, emprisonné dans un embouteillage,
ouais,
dans une de ces grandes villes comme New Delhi, comme Bombay, comme Calcutta, comme d'autres villes encore, il ne faut pas vouloir, il ne faut pas s'énerver, il faut laisser le temps aux choses de se faire, et puis il faut en profiter pour regarder par la fenêtre, pour réfléchir, pour absorber le paysage foisonnant. Et ne pas résister, c'est aussi accepter que l'Inde, c'est à la fois le rêve et le cauchemar réunis.
Mmh.
C'est à la fois le paradis et l'enfer.
Mmh.
Mais ce n'est pas l'un après l'autre, c'est en même temps. La grande question en Inde, c'est la beauté et en même temps la laideur.
Mmh.
L'amour et en même temps la haine. Vous avez tout ça mélangé en même temps.
Alors, je traduis en termes concrets, c'est qu'à Bombay, effectivement, vous avez des quartiers étincelants pour les hommes d'affaires, pour les touristes de passage, il y a des choses très belles, des très beaux buildings. Et puis juste à côté, avec le pas, vous avez un bidonville absolument atroce. Et les deux sont en même temps, et tout ça grouillant de vie, et vous êtes toujours un petit peu perdu entre les deux. Et vous avez raison, c'est ça qui est troublant.
C'est très troublant. Lorsqu'on se retrouve face à un monument, par exemple, étincelant de beauté, comme le Taj Mahal, par exemple, ou la vieille mosquée, la Jama Masjid à New Delhi, et qu'en même temps, vous êtes harcelé par le spectacle de la très grande misère humaine, vous ne savez plus exactement ce qu'il faut faire, s'il faut vous réjouir de la beauté ancienne, ou de la beauté de la nature, si on parle des paysages naturels, ou s'il faut vous sentir concerné, apitoyé, désolé parce que vous voyez de misère. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de mélange permanent de l'Inde comme une sorte de grand cocktail. Vous avez finalement le meilleur résumé de la vie. C'est pour ça que je dis que c'est le voyage le plus important qu'on peut faire, parce que c'est le résumé de la vie.
Comment vous différencieriez les trois villes, Bombay, Delhi, Calcutta ?
Alors, Calcutta, déjà, ça a été la capitale pendant très longtemps de l'Empire britannique. Donc, c'est une ville qui, aujourd'hui encore, est marquée par son patrimoine architectural européen, de très grands monuments victoriens, comme on peut voir à Londres ou à Paris, de larges avenues. Une des grandes avenues à Bombay s'appelle Park Street, donc, comme dans les grandes villes occidentales. Et vous avez ce mélange de temporalité et en même temps, imaginez une seconde, en fermant les yeux, une Europe, une ville comme Paris, par exemple, envahie par la nature, envahie d'arbres immenses qui ne sont pas des peupliers bien sages, mais qui sont des bananes, par exemple, qui littéralement coulent sur la rue, des petits troupeaux de singes, des vaches, des chiens errants, et tout ça mélangé. Donc c'est une ville très civilisée et en même temps tout à fait sauvage. Voilà pour Calcutta. New Delhi est devenue capitale au XXe siècle. Elle est devenue la première capitale de l'Inde indépendante en 1947. Et c'est une ville, en fait, qui est le rapprochement de deux grosses cellules. Une ville ancienne, la vieille ville de Delhi, au nord, construite autour de la mosquée. Une ville donc, avec un héritage moghol, musulman, arabo-musulman. Et au sud, une ville qu'on appelle la Nouvelle Delhi, New Delhi, construite par le grand architecte de l'Inde britannique, Lutyens. Une ville avec des larges avenues, le plus calme possible. Et vous avez finalement ce rapprochement entre une ville folle, d'une densité humaine incroyable, la vieille ville, et une ville sage, qui est New Delhi au sud.
Delhi,
et en ce qui concerne...
Alors, on parlera de Bombay juste après, excusez-moi, c'est moi qui vous interromps. Delhi, qui est une des villes les plus polluées au monde, selon certaines infos, rester à Delhi, c'est fumer 44 cigarettes par jour. c'est la même chose.
Ah oui, non, mais c'est dramatique. Je pense que, c'est comme toutes les grandes villes du monde ultra développées, vous avez en effet ce problème de pollution. Et il faut ajouter à New Delhi une pollution un peu, entre guillemets, traditionnelle. Par exemple, à partir d'octobre, novembre, vous avez dans les plaines du Rajasthan une manière de renouveler la terre. Il faut faire la culture sur brûlis, donc on brûle les champs. Et c'est vrai qu'il y a des déluges, des nuages de fumée qui tombent sur Delhi. Tout ça mélangé avec une humidité qui fait que la pollution a du mal à partir. Ouais. Donc c'est vrai que Delhi est très très polluée, comme Pékin, comme Mexico, comme ces très grandes villes qui sont peut-être allées un peu trop vite.
Alors on n'a pas parlé de Bombay. Qui est une ville aussi fascinante, qu'elle plus ouverte sur la mer, on est sur un port là.
Ah, moi j'adore Bombay. Bombay, alors j'ai longtemps vécu en Chine avant d'être en Inde, et en Chine j'aimais particulièrement la ville de Shanghai. Une ville finalement qui, parce que c'est un port, parce qu'elle est ouverte sur la mer, a été aussi peut-être plus davantage ouverte aux influences extérieures, occidentales, une forme de liberté qu'on retrouve dans les villes portuaires, un côté aussi un peu mauvaise fille. On flambe, on s'amuse, on fait peut-être un peu n'importe quoi. Et tout ça est un peu sauvage. Et c'est vrai que Bombay, c'est une ville magnifique aussi. Alors, il faut se représenter aussi que Bombay, c'est une lagune, une longue bande comme ça, de sept ou huit petites îles qui ont été progressivement reliées les unes aux autres. Alors là, en parlant d'embouteillage, en revanche, il n'y a pas
mieux. C'est monstrueux.
Oui, moi j'ai fait des embouteillages de 3-4 heures
à Bombay.
Ah oui,
mais c'est monstrueux.
Pour passer du nord au sud. Oui, ça fait partie de mes pires souvenirs.
Mais il y a même des gens qui décident d'émigrer, de partir plus loin, de s'installer ailleurs, tellement c'est impossible de bouger dans Bombay. Il y a une sorte de deuxième Bombay qui s'est créée un petit peu plus au nord, je crois, et qui permet d'échapper à cet enfer. Quand vous avez un rendez-vous à Bombay, il faut compter 2-3 heures de déplacement, où que ce soit.
Ah non, c'est infernal. Alors, on peut prendre le métro tout de même, le métro et le train. Et ça marche aussi. Et je pense que quand on parle de l'Inde, quand on pense à l'Inde et quand on a voyagé en Inde, c'est aussi beaucoup de souvenirs de chemins de fer.
Oui, parce que l'Inde, c'est un des grands pays du train dans le monde. Des trains qui fonctionnent très bien. Hein. C'est très au point.
Moi, écoutez, je pense que l'Inde est devenue un pays grâce à deux choses. Grâce, d'une part, à la langue anglaise, qui a permis aux Indiens du Nord de pouvoir parler aux Indiens du Sud. Et grâce au train, grâce au chemin de fer, puisqu'on pouvait voyager à travers l'ensemble du pays. Et ça a été un vecteur extraordinaire de construction d'un sentiment d'appartenir à un pays.
Ouais. Alors à Bombay, il y a aussi une fête absolument dingue, c'est la fête des couleurs.
Ah oui, c'est merveilleux la fête des couleurs. C'est un peu la fête du printemps, c'est au début de l'année. Mmh. Et ça consiste à se jeter plein de couleurs sur soi.
En poudre, sous forme de poudre.
En poudre, oui, ouais. Voilà, on s'envoie de la poudre de couleurs. Et c'est aussi une fête de l'exubérance, c'est une sorte de carnaval en fait. Ouais. On s'affranchit de toutes les limites. Et l'Inde, on en parlera peut-être, c'est aussi le pays des contraintes sociales. Des castes,
ouais,
de l'ordre social, de tout ce qui vous enferme dans une identité. Et lors des fêtes, eh bien, brusquement, vous avez tout le monde réuni autour de la même célébration, jouissive, exubérante, complètement folle.
Elle a un nom, cette fête, comment elle s'appelle ?
C'est la fête de Holi, avec un H. Oui.
On va continuer à explorer l'Inde avec vous, Nicolas Hidier, dans un tout petit instant sur Europe 1.
Europe 1, 11h midi, et si on partait ?
Philippe Googler.
Et nous sommes en Inde aujourd'hui avec Nicolas Hidier, auteur amoureux de l'Inde. Je suis également, bien sûr, accompagné de mes...
Oh, je crois que vous allez dire, vous êtes également amoureux de moi. Non, rien à voir.
C'est bizarre que vous pensiez à ça.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Non, moi je suis fasciné par ce que nous raconte notre invité, complètement... Parce qu'il a tellement raison sur les contrastes, le fait que partir en voyage en Inde, il faut vraiment lâcher prise, quoi. Il faut oublier toutes les références qu'on a et se laisser porter par ce qu'on voit, ce qu'on entend, ouais, ce qu'on goûte. Enfin, c'est vraiment extrêmement bien résumé. Donc
c'est un torrent de sensations, ouais, et ouais, de, et
le
d'énergie.
Seul truc qu'il faut quand même bien, faut bien avoir en tête, c'est que le oui et le non sont inversés, hein, dans la façon de
ah
le
oui,
faire avec
c'est
la
vrai,
tête.
C'est vrai ça.
C'est quand même un truc à comprendre dès le début, sinon
dire,
on est mal. Hein.
Pour dire oui, on dodeline un peu de droite à gauche, ouais,
qui
avec
pour
la
nous,
tête.
Qui pour nous voudrait dire non, ouais, ou peut-être. Donc il faut quand même, il faut bien comprendre ça pour pas avoir de malentendus.
Il faut se méfier, oui, oui. On a souvent l'impression qu'on nous dit non, du coup, d'ailleurs. Nicolas Hidier, il y a quelque chose qui est très troublant dans ce pays, c'est la notion de caste. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à comprendre quand on vient d'ailleurs. Comment vous l'avez ressenti, vous, ça, sur place ?
Alors, théoriquement, dans l'Inde d'aujourd'hui, les castes ne devraient plus exister. Mmh. Politiquement, elles ont été supprimées. Mais dans la réalité, en effet, la caste, ça se définit de manière très simple, c'est que chacun naît avec une fonction définie. Donc, si vous naissez en bas de l'échelle des castes, eh bien, votre fonction, ça sera de nettoyer, par exemple. Si vous naissez en haut de l'échelle
celle
des castes...
Celle d'une caste inférieure devrait nettoyer les toilettes.
Exactement. Et si vous naissez en haut de l'échelle, eh bien vous enseignerez, vous serez soldat, vous serez guerrier. Et les choses ne se mélangent pas. C'est-à-dire, si vous êtes né dans les basses castes, eh bien, probablement jamais, vous ne pourrez jamais accéder à des fonctions qui sont trop supérieures. Et c'est quand même, je pense, un des combles de l'injustice humaine. Vous êtes enfermé dans votre destin à partir de votre naissance.
Et c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender quand on est voyageur, parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on ressent tout de suite et qu'on peut voir de manière si flagrante. Ou est-ce qu'il y a...
C'est vrai que ça ne saute pas aux yeux du premier coup d'œil, il faut le savoir. Ouais.
Sauf quand on prend le train, peut-être, on voit que des gens ne se parlent pas entre eux, il y a différentes classes, etc. Ouais. Mais est-ce que pour un voyageur, il y a une manière de voir directement ce... Voilà, de manière directe, c'est plutôt dans le fonctionnement social d'une société. Que
vous avez raison, quand on est voyageur, c'est un peu l'arrière-boutique de l'Inde, on ne le voit pas forcément. Mmh, mmh. Cela étant, on voit bien qu'il y a certaines personnes qui ne s'adresseront jamais à d'autres personnes. Et lorsque vous voyagez avec des Indiens, par exemple, le personnel des hôtels ou des gares ne s'adressera jamais, ou en tout cas ne regardera jamais dans les yeux certains de vos amis, juste parce qu'ils savent qu'ils sont d'une haute caste. Mmh. Donc ça se ressent tout de même de manière très très forte.
Et a fortiori ensuite, avec les intouchables carrément, qui restent dans la rue. Et moi, j'ai des scènes affreuses de gens qui... Enfin bon, c'est trop triste. J'ai pas envie de le raconter.
Non, c'est atroce, mais il faut être... Quand je disais que l'Inde, c'est à la fois l'enfer et le paradis,
c'est
l'enfer pour certaines personnes. Juste une chose pour les castes où on le voit bien. Il y a une chose formidable à faire en Inde, c'est boire du chai. Vous savez, c'est ce thé très sucré avec du lait.
Du lait.
Eh bien, il y a des petits pavillons, des petits stands de chai un peu partout en Inde. Mm-hmm. Eh bien, est-ce que vous savez pourquoi les gobelets dans lesquels vous buvez le chai sont en terre cuite ?
Non.
Ah non, pas du tout.
Eh bien, parce qu'après l'avoir bu, on le casse pour éviter qu'il soit donné à quelqu'un d'une autre caste que vous et que soit cette personne soit souillée parce que vous êtes en bas de lui ou soit qu'elle extrapole sa condition en buvant dans dans le même récipient.
C'est dingue.
Mais alors, il parlait des fêtes justement de Holi, c'est-à-dire que les gens se mélangent. Donc comment aujourd'hui c'est plus possible de rester chacun dans sa case? Il y a des couples qui se forment, des amours qui se forment.
Ah oui, mais à quel
comment
prix? À quel prix? Alors en effet, l'éducation aidant, il y a parfois des très belles histoires, mais très régulièrement il y a en Inde des faits divers de couples justement d'amour impossible qui sont obligés de s'enfuir le plus loin de leur village et de rejoindre les grandes villes. Parce que c'est dans les grandes villes qu'ils trouveront la liberté.
Alors, ces histoires d'amour compliquées, on les retrouve dans le cinéma, par exemple. Parce que le cinéma en Inde, c'est incroyable. C'est la première production cinématographique mondiale. Il y a 3000 films par an qui sortent en Inde. Et Bollywood, c'est fou.
Ah, c'est absolument extraordinaire. Et c'est vrai que le cinéma en Inde, c'est probablement l'endroit où tout est possible. Ouais. Vous pouvez vivre les plus grandes histoires d'amour, les histoires d'amour impossibles, ouais. Roméo et Juliette fois 1000. Ouais. Ça, c'est rendu possible par le cinéma.
Et c'est toujours pareil, c'est que moi, j'ai une image de famille entière qui vont au cinéma, qui mangent pendant les films, qui chantent. C'est toujours comme ça ?
Oui, le cinéma reste la grande religion de l'Inde. En revanche, malheureusement, le prix des places de cinéma est désormais beaucoup plus élevé qu'avant et c'est peut-être un peu moins populaire. Il n'empêche que les grandes stars de cinéma, comme Shah Rukh Khan ou Amitabh Bachchan, restent des dieux vivants.
Ouais. Alors, on connaît tous les restaurants indiens dans nos entourages, mais qu'est-ce que là-bas on mange? Quel est vraiment le plat indien de l'Indien de tous les jours?
Alors moi, ce que j'adore, c'est manger dans la rue.
Ouais.
Donc le plat indien...
Ça, c'est pas un peu dangereux au niveau santé?
Il faut bien choisir. Moi, j'ai toujours considéré que les petits restaurants, tout petits, on leur fait confiance parce qu'on voit les cuisines. La cuisine, c'est simple, elle est devant vous. Ouais. Vous arrivez et vous voyez la nourriture en train d'être préparée. Et les Indiens au quotidien, tous les jours, mangent le thali, c'est-à-dire un plateau en inox avec des petits compartiments, un peu de riz, un peu de légumes, un peu de condiments. Généralement végétariens, mais pas que, parce que tous les Indiens ne sont pas végétariens, Dieu merci. Et c'est vrai que l'histoire de la cuisine indienne, c'est une histoire de rue.
Et le plat le plus courant?
Le plat le plus courant en Inde, c'est
le
probablement...
Dal,
oui,
le dal.
Le dal, merci.
Ouais. J'adore.
Le dal, des lentilles,
mais entre le nord et le sud, la nourriture est quand même très différente pour le coup.
Oui, elle est très très différente, vous avez raison. Déjà, les piments ne sont pas les mêmes. Dans le sud, c'est beaucoup moins pimenté qu'au nord. Et ensuite, vous avez dans le sud, et notamment au Kerala, du poisson. On mange énormément de fruits de mer. Ouais.
Le dal, je précise, pour ceux qui ne connaîtraient pas,
bien
c'est
sûr.
Un plat avec des lentilles.
Oui.
Et puis à côté, il y a un peu de viande. Ou... Ah non, pas forcément d'ailleurs, parce
pas
que c'est souvent végétarien.
Végétarien, du riz, en revanche. On mélange le dal avec le riz.
Et ce sont des lentilles corail, hein. Ce ne sont pas des lentilles du puits. Je précise,
c'est
pas du tout les mêmes lentilles que chez nous.
C'est délicieux le
merci gars. Didier. Nicolas, vous pouvez rester avec nous pendant le reste de l'heure, ça vous avez le temps ou vous devez partir?
Avec plaisir.
Eh bien écoutez, vous restez avec nous parce que je trouve que vous parlez formidablement de l'Inde. Dans un tout petit instant, Nathalie Corré nous expliquera ce qu'elle a trouvé dans la presse indienne parce qu'elle a ses yeux partout.
Oui.
De quoi parle-t-on de l'Inde en ce moment? À tout de suite.
Je lis couramment.
À tout de suite sur Europe 1.
11h midi. Et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Tous les jours, de nouvelles aventures sur Europe 1 entre 11h et midi. Aujourd'hui, un pays continent immense, un pays qui vous change lorsque vous êtes amené à le fréquenter. Nous sommes en Inde avec mes compagnons de voyage, Nathalie Corré, avec Didier Ferrat et puis aussi avec Nicolas Hidier qui est passionné de l'Inde et co-auteur du livre Une boîte de nuit à Calcutta. Alors Nathalie,
oui,
la presse indienne, parce que vous lisez les caractères indiens
bien
avec
évidemment.
Un panache exceptionnel.
Je suis un imposteur total. Alors, d'après le South China Morning Post, il y a une addiction en Inde actuellement qui est très préoccupante.
Allons bon.
C'est le selfie.
Ah, mais ça, c'est pas qu'en Inde.
Ah, si. Alors, le selfie, pour ceux qui ne connaissent pas encore le mot, c'est se prendre en photo soi-même. Hein, donc, voilà. Car le problème, c'est que le sous-continent asiatique enregistre près de la moitié des décès survenus dans le monde lors de la prise d'une photo.
Non.
Bah, on a constaté des noyades, des accidents de train, de voitures, de chutes vertigineuses. Évidemment, les gens se mettent n'importe où et claquent, se prennent en photo.
Vous voulez dire que l'Indien ne se concentre pas lorsqu'il fait un selfie?
Ah bah pas du tout, mais c'est vraiment un problème socio-culturel terrible dans un pays qui compte quand même le plus de smartphones par habitant. 760 millions. Non mais vous vous rendez compte? Bah alors d'ailleurs, c'est vrai que très vite, en Inde, moi j'avais constaté qu'après vous avoir demandé si vous étiez marié, si vous aviez des enfants, enfin la dernière fois on m'a demandé si mes enfants étaient mariés, bon, bon malheureusement on ne se voit pas grandir. Alors directement en général on vous demande votre numéro de portable maintenant, et il m'est arrivé d'avoir un nombre incalculable de contacts de conducteurs de tuk-tuk et autres vendeurs, gérants de pensions, etc. et de recevoir durant l'année, alors que j'étais rentré chez moi, des selfies improbables en famille, avec, lors de festivités, etc. Là, le décalage horaire, je reçois ça en pleine nuit, mais ça prête à confusion.
Parce qu'ils vous les envoient après.
Bah oui,
d'accord.
Bah oui, parce qu'on garde contact. Hein, oui. Bah oui, mais attention aux selfies, vous savez, faites attention à ce qui est derrière vous quand même. Alors, je vais passer sans transition, comme on dit dans les bonnes maisons, par un flash radio info, radio achat. Alors,
qu'est-ce qui se passe ?
Alors, Nicolas, Philippe, Didier, est-ce que vous n'avez jamais rêvé de rafraîchir votre maison avec une peinture spéciale, respectueuse de l'environnement, sans odeur ni composants toxiques, et possédant des propriétés antibactériennes et antifongiques ?
Avec quoi ?
Non mais évidemment, vous en avez toujours rêvé.
Oui.
Ah oui,
ah
vous me répondez oui, bien sûr.
Je réponds bien sûr, mais je suis impatient de savoir avec quoi c'est fait.
Alors, d'après l'Indian Express, l'Inde a trouvé la solution miracle en mettant au point une peinture à base de bouse de vache.
Très bien.
Alors, non mais ça, c'est pas
une
des blagues.
Une peinture à base de bouse de vache.
Le ministre des routes...
On n'a pas le choix de la couleur, visiblement.
Ah non, mais c'est blanc au départ, mais vous pouvez mettre des colorants. Le ministre des
la
routes et des
pénales... La bouse de vache, c'est blanc.
Oui, c'est blanc quand ça sèche. A lui-même testé officiellement. Et au pays, je vous rappelle, de la vache sacrée, on ne plaisante pas avec le sujet. C'est du sérieux. Alors, la peinture a été homologuée par le Bureau of Indian Standards.
Ah bon ? Nicolas, la vache, c'est vrai qu'elle est sacrée et qu'elle circule au milieu des routes, parfois même des autoroutes. On ne dérange pas une vache en Inde.
Elles sont responsables des plus grands embouteillages de l'histoire de l'Inde.
Oui, bah, elle est tellement sacrée qu'on utilisait déjà la bouse de la vache pour faire des bâtons d'encens, et son urine a été utilisée pour faire des désinfectants. Vous voyez, c'est formidable.
C'est pratique, voilà. Une vache.
C'est un animal de compagnie. Bon. Alors, selon le The Hindu, un patriarche fervent défenseur de la polygamie vient de décéder à l'âge de 76 ans, ce qui n'est pas énorme non plus, vu son parcours. Il a eu 39 femmes, 94 enfants, 14 belles-filles, 33 petits-enfants et un arrière-petit-enfant. Ce qui représente 181 personnes,
on peut
le dire, voilà. Alors écoutez, lui, ce serait effectivement la plus grande famille du monde, a priori.
Ouais. Les repas de famille doivent être quelque chose.
Alors les repas, oui, mais mon ami, le logement, pensez au logement. Alors figurez-vous
Il y a beaucoup de palais.
Oui, mais ils habitent dans une maison de 4 étages, avec une centaine de chambres.
Mais parce qu'ils habitent tous ensemble.
Tous ensemble.
Avec les 39 femmes.
Les 39 épouses partagent un dortoir. Bah oui, tant qu'à faire, autant que ça soit confortable. Près de la chambre privée du patriarche. Alors, la maison est devenue une grande attraction touristique de l'État. Des gens venus du monde entier se pressent dans le village pour avoir un aperçu du mode de vie de la famille hors normes, bien sûr. Écoutez, moi, j'espère que ce n'est pas pour s'en inspirer. Parce que quand même, bon, franchement, c'est pas bon. Hein, ne faites pas ça chez vous, je dirais.
Ah, voilà. 39 femmes, faut déjà, c'est déjà du travail en soi.
Mais c'est énorme. Bah, en plus, dans le principe de la polygamie, c'est qu'il faut les honorer toutes et pas seulement...
C'est
les honorer financièrement. Donc, je ne sais pas comment on fait. Ah, bon. Alors, dans le journal, toujours sans transition, j'aime beaucoup cette phrase, dans le journal minimal.fr, dans ces temps on ne peut plus troubles, j'ai trouvé un article sur les extrémistes de la non-violence qui n'aiment pas qu'on parle d'eux dans les médias et qui n'aiment pas être pris en photo, ce sont les Jain.
Ah oui,
alors
Jain.
Ça, c'est quand... Alors effectivement, quand j'étais jeune et fraîche, c'est-à-dire hier, je suis allé dans l'état du Gujarat et j'avais fait l'ascension des temples Jain à Palitana. 3500 marches qui permettaient d'arriver au sommet où 863 temples ont été construits. C'était de la dentelle, bon, en plein cagnard quand même, où j'étais doublé par des fervents fidèles habillés en blanc, avec un masque sur la bouche, un mupati. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ressemble un peu en ce moment,
vrai.
Oui, on a tous notre masque, pour ne pas avaler un insecte et balayer le sol devant chaque pas.
Mais c'est ça qui est important.
Incroyable.
Pour ne pas tuer des animaux, pour ne pas blesser les animaux,
exactement.
On balaye devant soi. Ouais.
Alors, ils ont 5 règles très importantes, je vous demande de les méditer. Épargner toute vie animale et humaine, bien sûr. Rester chaste, bon, ça,
faut, c'est difficile.
Comme
ça.
On peut. Dire la vérité. Ne rien posséder, ne pas manger la nuit afin d'éviter d'avaler un insecte par inadvertance. Et le respect de toutes ces règles a forgé la réputation des Jain, que vous connaissez bien évidemment Nicolas, et Philippe aussi, et évidemment Didier aussi, car vous savez qu'ils ont inspiré Gandhi.
Oui. Tout à fait. Et la version, je dirais, une des versions les plus extrêmes de ces non-violents, ce qui est un peu contradictoire, il y a certains moines qui vivent entièrement nus.
Eh ben oui, parce qu'ils sont à cause du cuir en plus.
Mais il faut se libérer, absolument. Mais, oui. Mais de toute façon, il faut se libérer de tout bien matériel, de tout désir. Il faut se vider complètement. Et ils vivent tout à fait nus. Ils sont végétariens. Il y a quelqu'un, ils se déplacent parfois en groupe comme ça. Il y a des gens qui balayent autour d'eux pour pas qu'ils n'écrasent d'insectes quand ils marchent. Et vous avez des gens qui viennent les nourrir, leur mettre de la nourriture dans la bouche. Ce sont des gens du village qui viennent comme ça, faire des offrandes en les nourrissant. C'est tout à fait spectaculaire. Vous en avez croisé
Ah oui, moi, c'est un des souvenirs les plus incroyables. À New Delhi, en marchant, en allant au travail, tout le monde était en costume, belle voiture, hommes et femmes d'affaires. Et brusquement, 5 hommes tout nus qui marchent, en effet, sur ces très beaux trottoirs. Franchement, j'ai cru que je n'étais pas encore réveillé.
Ouais, ouais. Oh là là. Ça, c'est l'Inde. C'est ces contrastes-là absolument incroyables.
Oui, il y a un temple Jain qui est magnifique tout à côté de Udaipur. Et là, moi, ce qui m'avait impressionné, c'est qu'effectivement, on balaye devant eux, mais eux-mêmes ont une petite balayette. Et donc, ils balayent
avant
de passer
sur le
trottoir.
Ah oui, c'est ce que j'ai expliqué, c'est qu'en montant,
voilà,
on balaye.
C'est une vision quand même très particulière et incroyable. Et les temples sont magnifiques, parce que c'est effectivement tous de la dentelle, de pierre. C'est
aller
très
à Palitana, c'est spectaculaire.
Dans un petit instant, Didier Ferrat, vous allez nous donner vos bons plans, vos meilleures idées pour bien aborder l'Inde, parce que ça peut être toujours un peu compliqué, un peu presque effrayant, un peu mystérieux avant d'y aller, on ne sait pas trop comment faire. Tous vos bons conseils dans un tout petit instant, juste après avoir écouté Noé Préchoff. Cette route-là, sur Europe 1, bien sûr.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes en Inde jusqu'à midi dans « Et si on partait ?» sur Europe 1, avec Nathalie Corré, avec Didier Ferrat, également avec Nicolas Hidier, passionné de l'Inde et auteur du livre « Une boîte à Calcutta ». Est-ce que, Didier, vous avez quelques pistes à nous donner pour aborder l'Inde quand on n'y est jamais allé? Par où on commence? C'est un peu effrayant comme ça.
Alors, il y a d'abord un monument que tout le monde connaît.
Oui, on commence par un classique.
Un grand classique.
Facile.
Facile, absolument fascinant et terriblement émouvant quand on le voit en vrai, même si on a vu des centaines de photos. C'est le Taj Mahal.
Ah, oui.
Je le conseille d'une part parce qu'il est très facile d'accès depuis Delhi. Vous avez un train express en 2 heures, vous y arrivez très facilement. Mais aussi parce que c'est un monument absolument sublime, tout en dentelle blanche de marbre. C'est un mausolée, en fait, qui a été construit au XVIIe siècle par un empereur pour rendre hommage à sa femme qui venait de décéder et qui venait de mettre au monde son 14e enfant.
Oui, c'est une histoire d'amour triste.
C'est une histoire d'amour triste, mais belle. Et même s'il y a beaucoup de monde, je vous assure qu'on reste quand même très, très, très ému en voyant ce monument tout blanc, magnifique.
La première fois qu'il apparaît, devant ses yeux, on se dit « Ah, c'est pas vrai, c'est aussi beau que je l'espérais ».
Et c'est un rêve d'enfant aussi qui se réalise.
Oui, tout à fait. Alors là, on parle de marbre blanc, étincelant. L'Inde, c'est un pays de couleurs aussi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour la première fois, quand on va en Inde pour la première fois, moi, je conseille un état qui est extrêmement coloré, c'est le Rajasthan. C'est très facile d'y circuler parce qu'il y a beaucoup de trains, les villes sont assez proches. Et surtout, c'est une explosion de couleurs. Alors, d'une part, les villes ont chacune un peu leur couleur, ce qui est très très étonnant. Elles sont toutes plus chatoyantes les unes que les autres. Alors, d'abord Jodhpur, qui est dominée par un fort. Toutes les maisons sont bleues.
Ouais, on l'appelle la ville bleue d'ailleurs.
Oui, la ville bleue, c'est très impressionnant. Ensuite, il y a Jaisalmer, la grande citadelle construite en plein désert, qui est plutôt complètement ocre. Et puis, il y a Jaipur, avec son fameux palais des vents. C'est une ville toute rose, très très belle, et aussi très encombrée. On a parlé tout à l'heure avec Nicolas des embouteillages, et je peux vous dire que j'ai vécu un embouteillage dans cette ville absolument impressionnante, parce que c'est un vrai spectacle. C'est-à-dire que c'est à la fois les singes qui vont de camions en chameaux, des chameaux qui tirent des dromadaires plutôt, qui tirent des carrioles, des tuk-tuks, des singes, des vaches sacrées qui trônent au milieu de la rue. Et là, c'est un spectacle complètement incroyable que Nicolas a bien décrit. Ouais. Et c'est vrai que c'est un chaos inimaginable.
Il faudrait presque aller se mettre dans un embouteillage pour en profiter.
De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous tombez forcément dans un embouteillage. Donc ça, c'est sûr. Et puis, vous avez aussi les habits des femmes qui sont particulièrement colorées dans le Rajasthan. Elles ont beaucoup de... C'est un état extrêmement pauvre, le Rajasthan. Ouais. Mais elles ont beaucoup, beaucoup de colliers, de bijoux. Et puis, vous avez aussi la couleur des turbans des Sikhs, qui sont aussi très particuliers et qu'on trouve beaucoup aussi dans cet état.
Ouais. S'il y avait une ville à visiter au Rajasthan que vous aimez, ce serait laquelle?
Écoutez, celle que je préfère, moi, c'est Udaipur. Pourquoi? Justement, parce qu'elle est plus calme. C'est une petite ville située au bord de 3 lacs. Elle est au milieu des collines. Il y a beaucoup de jardins, de demeures élégantes qui dévalent la colline. C'est sans doute l'endroit le plus romantique du Rajasthan. Vous pouvez louer une bicyclette et aller voilà, de palais en maison. Et surtout, il y a deux îles absolument formidables sur un des trois lacs. Ils sont tous les deux construits. Ce sont des palais de Maharaja. Il y en a un qu'on peut visiter et l'autre, c'est un hôtel.
Ouais. Un hôtel qui est superbe. Hein. C'est un Maharaja qui avait construit un hôtel tout blanc sur une île au milieu d'un lac. Et l'hôtel a exactement la taille de l'île, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il flotte au milieu du lac. Ça s'appelle le Lake Palace.
C'est sublime.
C'est une pure merveille.
C'est une merveille.
Juste aller y boire un thé, aller faire quelque chose, mais c'est vraiment merveilleux si vous passez par là. Nicolas, vous aimez ce coin-là, vous, c'est votre...
À Udaipur, c'est absolument magnifique. Et le Lake Palace a en plus accueilli le tournage d'un James Bond.
Oui.
Donc on peut y sentir les ondes de l'espion 007, ouais. C'est rigolo.
Ouais, c'est très chouette. Si on veut plus un côté un peu sud, un peu mer, un peu repos, on va où, Didier ?
Alors moi je vous conseille d'aller dans le Kerala. Alors d'abord parce qu'il y a des très 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 belles plages bordées de cocotiers. Il y a quand même 600 km de côte, ouais. Donc vous avez quand même un peu le choix avec 600 km. Et vous pouvez aller dans des stations déjà un petit peu construites, un petit peu fréquentées. Mais si vous voulez vraiment être au calme, il y a aussi des tas de petites plages plus difficiles à atteindre, mais quand même atteignables. Par exemple, aux alentours de Baikal, moi il y a une plage que j'ai beaucoup aimée, c'est la Kapil Beach, qui est à 6 km au nord de la ville. Elle est totalement isolée, vous l'avez pour vous tout seul.
Ouais. Moi, ce que j'aime bien au Kerala, c'est les backwaters.
Alors,
c'est vraiment, on a l'impression de se perdre dans un dédale.
Exactement.
C'est pas les plages, c'est à l'arrière, c'est dans les
exactement.
Terres.
Exactement. Les backwaters, c'est quoi ? C'est 900 km de voies navigables entre les différents lagons. C'est un réseau de cadeaux, en fait. C'est un peu une Venise complètement naturelle. C'est un lieu, mais c'est aussi une atmosphère absolument incroyable. C'est une végétation luxuriante de cocotiers, de mangroves. C'est un écosystème incroyable. Alors, vous pouvez effectuer des balades en pirogue, hein, qui sont d'ailleurs fabriquées en bois et en fibre de coco. Mais attention, l'écosystème est quand même très fragile. C'est aussi, certains endroits sont très fréquentés. Donc, au lieu de prendre un bateau à moteur qui vous permet d'aller rapidement, mais qui, je pense, est vraiment une erreur quand vous y voyagez, moi, je vous propose plutôt de dormir sur un des houseboats. C'est-à-dire, ce sont des bateaux où il est possible de loger, ouais. De manger. Vous y restez une ou deux journées. C'est un spectacle absolument incroyable. Et notamment, il faut choisir ceux qui sont plutôt propulsés à la perche au lieu, ouais, du moteur, parce que c'est bien meilleur pour l'environnement. Et là, pour le coup, vous êtes dans un monde pendant deux jours avec uniquement des bruits d'oiseaux, mais aussi les marchés sur l'eau, toute une ville lacustre, les pêcheurs. Puis le soir, quand la voûte céleste couronne cet univers d'eau, de végétal, le temps paraît complètement suspendu. C'est une expérience quand même hors du commun pour moi.
Ouais. Et alors, moi, j'ai vécu un truc assez étonnant dans ces endroits, c'est quand j'étais en bateau, comme vous l'indiquez, puis tout d'un coup, je vois une tête humaine qui sort de l'eau comme ça.
Ah, voilà.
Non, mais un être vivant, hein, mmh, un monsieur,
ah,
qui
bon,
était dans l'eau,
oui,
pas un mort.
Bah, oui.
Et il y a une tête qui sort comme ça, puis il regarde ça, puis hop, il redisparaît dans l'eau pendant une minute, et puis hop, il ressort. Et alors, on s'approche un peu de lui, on dit, qu'est-ce que vous faites ? Et c'était un pêcheur qui essayait d'attraper les poissons à la main. Ils attrapaient les poissons à la main. Et puis, il y en a un autre qui était avec des collègues à lui, ils étaient en train d'installer des filets sous l'eau, mais complètement comme ça, en se plongeant, en s'immergeant totalement. C'est très, très, très étonnant. Nicolas, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé. C'est pour les gens qui veulent découvrir l'Inde, mais d'une manière plus spirituelle. Parce que c'est un pays qu'on présente toujours comme ça, avec une spiritualité très forte. Si on veut goûter à ça, comment vous le feriez, vous ?
Oui, l'Inde, c'est le pays de la spiritualité par excellence. Peut-être, alors c'est facile d'aller s'inscrire dans des retraites de yoga,
dans des ashrams,
d'Ayurveda, dans des ashrams, c'est tout à fait possible. Il y a plein d'ashrams formidables, très agréables pour une semaine de yoga et de médecine traditionnelle indienne, ce qu'on appelle l'Ayurveda. Mais ce que je conseille finalement, c'est tout simplement de prendre le temps, de ne pas traverser l'Inde en courant. Lorsque vous arrivez quelque part, il ne faut pas y passer juste un jour et ensuite partir vite au prochain spot touristique. Il faut rester deux ou trois jours, se lever tôt, aller dans les petits temples au bord de la route, voir comment les gens pratiquent leur culte, leur religion, qu'ils soient hindouistes ou jaïnes, comme on le disait, et s'imprégner de cette spiritualité du quotidien. Parce que l'Inde est très spectaculaire vu de l'extérieur dans sa spiritualité. C'est vrai que c'est la spiritualité de tous les extrêmes, mais c'est surtout une spiritualité du quotidien. Du quotidien.
Et mais on est un petit peu à l'extérieur, parce qu'on va les regarder prier, on va les regarder, mais pour vraiment essayer de partager quelque chose, comment on fait ?
Alors je pense qu'il faut être raisonnable aussi, on est toujours un peu à l'extérieur. Mmh. Il faut respecter cette dimension-là Et pour s'en approcher, eh bien, tout simplement, encore une fois, il faut prendre le temps, être à l'écoute. Et les Indiens sont très, très, très chaleureux. Et ils vous expliqueront facilement. Mmh. Ils vous feront participer, y compris dans leurs grandes fêtes religieuses, à des petits cultes. À la sortie de certains temples, par exemple, y compris à New Delhi, on donne de la nourriture gratuitement. Ça fait partie des offrandes et c'est un geste religieux. Alors évidemment, les gens qui ont faim font la queue. Mais si vous passez devant, eh bien, ils vous tendront un petit peu de cette nourriture et vous pouvez la manger et vous pouvez donc profiter de cette spiritualité offerte, ce que j'appelle la spiritualité du quotidien.
Nathalie, vous avez connu les ashrams?
Ah bah oui,
c'est vrai,
bien sûr. Non, moi je suis allée à Goa une fois. Déjà parce que c'est lusophone. Alors, ce qui est quand même incroyable,
c'est qu'on y parle portugais.
On y parle portugais parce que c'est une capitale de l'Empire portugais des Indes. C'était la capitale. Donc, c'est très original d'aller à la messe en portugais, par exemple, de voir que les noms des rues sont en portugais. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de centres de yoga, notamment qui forment des professeurs d'ailleurs. Donc, c'est vraiment institutionnalisé presque. Mais c'est vrai que très justement, vous le disiez, je pense que si on n'est pas prêt et si on part en Inde pour faire un stage de yoga en n'en ayant jamais fait, je vois pas trop l'intérêt parce qu'il y a vraiment, c'est un plus d'aller en Inde faire du yoga parce qu'il y a toute cette dimension spirituelle en plus de la dimension des asanas enchaînés. C'est pas des cures de sport, quoi. C'est vraiment quelque chose où on décolle. Et puis, au Kerala, vous l'avez dit, c'est les cures ayurvédiques pour vraiment se faire un nettoyage complet au sens premier du corps, là vraiment avec le panchakarma, où il y a vraiment une purge qui se pratique.
Le panchakarma, qu'est-ce que c'est?
Le panchakarma, c'est-à-dire pendant 7 jours, vous allez boire des tisanes à base de plantes, on va vous en mettre sur la tête, on va vous faire des massages, ouais. et puis bah, vous allez vous purger, au sens, voilà.
Nicolas?
Ce que je conseillerais à un voyageur qui ne connaît pas l'Inde et à tout âge, c'est d'aller finalement au nord de l'Inde, aux sources du Gange, à Rishikesh. Parce que vous aurez finalement à la fois la campagne, les grands temples, l'hindouisme. Et vous pourrez même vous baigner dans le Gange, qui comme c'en est la source, n'est pas encore pollué. Moi, je me suis baigné dans le Gange, j'ai même mis la tête sous l'eau, j'ai ramassé un caillou au fond de l'eau, je l'ai ramené avec moi. Et franchement, je ne le regrette pas.
Et vous l'avez toujours, ce caillou?
Toujours, sur moi.
Ah, il est béni.
Didier, une petite dernière, un petit dernier tuyau.
Oui,
pour
écoutez, on a parlé de Goa, une ville coloniale. Il y a une petite ville coloniale que j'aime beaucoup. Alors évidemment, il y a la mythique Pondichéry, qui est une ville assez touristique, mais qui a un charme suranné. Mais moi, il y a une petite ville où il y a vraiment très, très peu de monde. C'est une ville qui s'appelle Tranquebar, qui est au sud de Pondichéry. C'est un ancien comptoir danois qui a un charme dingue. Il y a un fort sur la plage, un temple qui est un petit peu écroulé, des vaches sacrées, des barques, des filets de pêcheurs colorés. Il faut rester quelques jours. Il ne se passe à la fois rien et énormément de choses. Ce lieu a un charme incroyable. Toutes ces maisons coloniales, un petit peu en ruine, certaines sont restaurées en hôtel, très bien restaurées d'ailleurs, contrairement à d'autres endroits. Et c'est vraiment un lieu où il n'y a absolument personne.
Merci beaucoup Didier. J'espère que vous aurez tous compris que l'Inde, ça nécessite du temps. C'est ça vraiment qu'on aura compris dans ce programme. C'est qu'on ne va pas en Inde en une semaine en ayant envie de voir 14 sites. C'est d'abord se laisser pénétrer par ses émotions, par ses sensations, par cette spiritualité. Et il faut du temps. C'est ça la vraie richesse en Inde, le temps. Merci beaucoup Nicolas Hédier d'être venu nous parler de l'Inde à votre façon. Je rappelle que vous êtes le co-auteur du livre Une boîte de nuit à Calcutta, co-auteur avec Mackenzie Orsel aux éditions Robert Laffont. Et que nous pourrons vous retrouver en avril 2022 au Festival du Livre, si tout va bien, où l'Inde sera l'invité d'honneur. Merci Nicolas.
Merci beaucoup Philippe.
Merci les amis.
Merci.
On reprend nos valises dès demain. Nous irons un petit peu plus près, mais dans un pays très riche aussi. Nous irons en Italie du Nord. Et après les voyages dans l'espace et sur Terre, les voyages gastronomiques sur Europe 1 avec Olivier Pouls dans un instant. Bonjour Olivier.
Bonjour Philippe, si vous avez faim, restez avec nous. C'est l'un de mes fruits, je vous fais une petite confidence, c'est l'un de mes fruits préféré de l'été, c'est la framboise.
Ah, c'est bon ça.
Ah, c'est irrésistible. Ouais, manger à même l'arbre, vous savez, qu'on picore dans les barquettes comme ça. Nous allons aller la récolter, cette framboise, et nous allons aussi la cuisiner avec la chef Amandine Chéniaud. Voilà le menu du marché.
Ah, c'est tentant, mais pas surgelé. Hein.
Ah, jamais,
jamais.
Vous êtes fous, malheureux.
Merci Olivier, à tout de suite. Bonne journée à tous sur Europe 1 et surtout, n'oubliez pas de rêver.